Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Stéphane Carpentier.
8h, voici votre journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
Et bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et à la une de ce vendredi, du ballon rond dans nos vies.
Après plus de 4 mois de diète, premier match officiel ce soir, la finale de la Coupe de France PSG Saint-Etienne dans un stade de France quasi vide. À suivre également l'épidémie de coronavirus qui progresse à nouveau et ces femmes qui n'ont jamais remis leur soutien-gorge après le confinement. Avant toute chose, je réclame votre attention. Oui, soyez attentifs sur la route si, comme beaucoup, vous prenez le volant aujourd'hui pour partir en vacances. Car selon le bilan annuel de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes, on constate une augmentation inquiétante des accidents liés à l'inattention. C'était l'an dernier, un accident mortel sur 5, troisième cause de mortalité, derrière l'alcool et la fatigue, mais devant la vitesse. En ligne avec nous, le délégué général de l'association, Christophe Boutin. Bonjour.
Bonjour.
Donc, ce que vous révélez ce matin, c'est que l'inattention, aujourd'hui, ça tue plus que la vitesse.
Exactement. C'est un facteur qui ne fait que progresser, malheureusement, sur les autoroutes. Globalement, les accidents sur les autoroutes diminuent d'année en année. On a eu 154 tués en 2019, qui est une année extrêmement basse en termes d'accidents mortels. Mais ce qui est très préoccupant, c'est que le facteur inattention remonte de façon alarmante et il est très probablement lié à un usage excessif du smartphone dans les véhicules sur autoroute.
Ça, on a beau le savoir, finalement, on le fait quand même.
Exactement, et c'est ce que nous montre une enquête qu'on a réalisée cette année. Les gens sont de plus en plus conscients de la dangerosité du téléphone au volant. Ils ont même très peur des autres qui utilisent le téléphone au volant, mais leur utilisation augmente. Et plus préoccupant encore, c'est l'utilisation du SMS qui a beaucoup augmenté l'année dernière. On a eu plus 8% des répondants qui ont admis envoyer des SMS en conduisant. Quand vous faites un SMS, ça vous prend à peu près 15 secondes. 15 secondes, c'est 500 mètres parcourus sur autoroute. C'est criminel. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de regarder vos téléphones et regardez la chaussée pour être attentif à tous les obstacles qui peuvent s'y présenter.
Merci Christophe Boutin d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur RTL. Je rappelle que vous êtes président délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes.
Et une nouvelle fois, grande prudence au volant. Évidemment, c'est orange aujourd'hui sur tout le territoire dans le sens des départs. Ce sera rouge demain samedi. RTL vous accompagne dès les premières difficultés. C'est l'événement du jour, Isabelle, pour tous les fans de sport. Le football est de retour avec la finale de la Coupe de France.
Oui, après plus de 4 mois de sevrage, enfin un match officiel et une belle affiche PSG Saint-Etienne. Le PSG a laissé filer le trophée l'an dernier, mais les Verts attendent la Coupe depuis 43 ans, alors qui sait. Les retrouvailles ont lieu au Stade de France, mais un Stade de France qui sonnera creux, Eric Silvestro, 5000 spectateurs seulement, Covid oblige.
Ah oui, c'est vraiment dans une drôle d'atmosphère que va se dérouler le premier match de football officiel depuis 4 mois et demi. Pas d'embouteillage à prévoir autour du Stade de France, mais beaucoup de barrières et pas seulement dans les gestes. Impatient de retrouver le terrain, l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, a néanmoins plus de mal avec son nouvel équipement.
C'est toujours un peu bizarre de faire une conférence de presse avec cette masque-là. On vit toujours dans une phase où on doit être très vigilante, où c'est clair qu'il y a des choses plus importantes que foot.
Oui, mais le retour du foot, c'est aussi celui d'un certain espoir, de sourire, de passion, d'enthousiasme. Même si, évidemment, avec moins de 5000 personnes dans une enceinte de 80 000 places, cela sonnera désespérément creux. Un regret pour le capitaine stéphanois Loïc Perrin, qui soutient toutefois la décision des supporters de ne pas faire le déplacement.
Je comprends tout à fait leur position dans le sens où c'est impossible pour eux de choisir qui viendra au stade. 900 places pour nos supporters, ça fait très peu parce qu'il y en a 40 000 qui aimeraient venir. Donc je comprends tout à fait leur position.
Autre interrogation, l'état de forme des deux équipes pour ce nouveau départ. Mais l'envie, elle, est bien là.
Un coup d'envoi de cette finale à 21h10. Soirée spéciale, bien sûr, sur RTL avec Eric Silvestro, précisément de 20h à 23h ou minuit, si prolongation.
Et justement, faut-il augmenter la jauge dans les stades? Ce sera l'une des questions sur la table au Conseil de défense ce matin.
De nouvelles mesures de précaution pourraient être prises face à un certain relâchement dans les comportements, car les signaux alarmants sont bien là. Plus de 1000 nouveaux cas en 24 heures, 10 nouveaux foyers détectés depuis la veille. Le taux de reproduction du virus repart à la hausse dans de nombreuses régions, notamment en Bretagne, en Île-de-France ou en Nouvelle-Aquitaine. Pour sécuriser les vacances, deux centres de dépistage gratuits viennent d'ouvrir sur des lieux de passage stratégiques à Arcachon. C'est un reportage RTL de Denis Grandjou.
Un barnum blanc à l'ombre des pins, deux tables en bois et une chaise. Tout cela juste à côté des paillotes restaurants qui longent l'océan. Impossible pour les vacanciers de passer à côté sans voir cette structure médicalisée. Patrick Davé, le maire de la commune de La Teste, qui gère la plage du Petit Nice.
Peut-être qu'ils vont faire ici ce qu'ils n'avaient peut-être pas l'intention ou je dirais, ou l'envie, ou c'était peut-être pas très pratique de pouvoir le faire. Ils avaient peut-être l'envie, mais c'était pas très pratique.
Vous êtes des vacanciers, oui. Bienvenue. Hein.
Le docteur Bayam Esti réalise les tests.
C'est le test PCR, donc c'est le prélèvement nasal. C'est le prélèvement qui permet de savoir si on est infecté ou pas par le Covid. Et puis l'examen est envoyé après au laboratoire. Donc il y a un délai quand même de 24 à 48 heures.
Inclinez juste la tête en arrière. Allez-y, très bien. C'est désagréable. Voilà, c'est fini.
C'est désagréable ?
Un petit peu, oui, mais bon.
Mais pour vous, c'est important de le faire ?
Oui, c'est important de le faire, oui, parce que cette semaine, j'étais pas très, très bien.
J'attends le résultat, puis on sera rassuré. Tout simplement.
L'opération se répétera chaque jour jusqu'à la fin du mois d'août, de 13 à 15 heures, sur la plage du Petit Nice. L'équipe médicale table sur une cinquantaine de tests quotidiens.
Denis Grandjouard, Cachon pour RTL. La nouvelle ministre de la fonction publique reçoit les syndicats ce matin pour parler salaire, sujet sensible car le point d'indice est gelé depuis longtemps et dans le même temps, les fonctionnaires hospitaliers viennent d'obtenir des augmentations à l'issue du Ségur de la Santé. Dans l'affaire Narumi, Nicolas Zepeda est en route pour la France. Ce jeune homme chilien est soupçonné d'avoir assassiné son ancienne petite amie, une étudiante japonaise disparue en 2016 sur le campus de Besançon. Le Chili a finalement accepté de l'extrader. Il doit atterrir ce matin à Roissy vers 11h. Vous lirez peut-être ça sur la plage. Nicolas Sarkozy publie aujourd'hui un nouveau livre, Le temps des tempêtes, aux éditions de l'Observatoire. Il jure que l'ouvrage n'a aucune dimension politique. De fait, William Galibert, il y a de la politique, mais pas que.
Oui, et chez Nicolas Sarkozy, les tempêtes sont à la fois politiques et intimes. Les débuts de l'idylle avec Carla Bruni, le divorce avec Cécilia Attias, c'est l'histoire d'un président qui, depuis l'Élysée, doit gérer sa vie privée en même temps que le pays. Je pensais m'y être préparé, ce n'était qu'une illusion, affirme Nicolas Sarkozy, qui décrit aussi ses frustrations. Je savais que sur les 100% d'énergie qui sortait de mon bureau élyséen, à peine 10% arriverait sur le terrain. J'avais donc décidé de m'occuper de tout. Et voilà comment l'hyper-président Sarkozy est né. Toute ressemblance avec Emmanuel Macron n'est peut-être pas fortuite. Enfin, dans ses premiers extraits publiés par Le Figaro, entre deux rencontres avec Vladimir Poutine en pleine rage de dents, Nicolas Sarkozy distribue les coups de griffe contre François Bayrou, contre Jean-Louis Debré ou encore contre Laurent Fabius. Il fait partie de ces gens qui croient avec une sincérité désarmante que tout leur est dû. Fin de citation. 250 000 exemplaires de ce temps des tempêtes ont été imprimés et l'indication tome 1 sur la couverture promet déjà une suite.
William Galibert du service politique d'RTL. Un militaire français de la force Barkhane a été tué au combat au Mali hier. Un jeune homme de 25 ans, soldat du 1er régiment de parachutistes de Tarbes. Il était arrivé au Mali il y a 10 jours seulement, le 14 juillet. Son blindé a été percuté par une voiture suicide chargée d'explosifs. Deux autres soldats sont grièvement blessés. Aux États-Unis, Donald Trump annule la grande convention républicaine qui devait l'introniser comme candidat à la présidentielle. Ça devait se tenir en Floride, mais c'est l'un des États les plus touchés actuellement par l'épidémie. Le président américain a reconnu récemment que la situation était en train d'empirer.
Isabelle, on en vient à ce hashtag devenu très à la mode sur les réseaux sociaux, hashtag nobras.
Autrement dit, pas de soutien-gorge. Il y a aussi hashtag free the nipples, libérer les mamelons, je vous jure. Et derrière ces hashtags, des femmes qui ont décidé de laisser leur soutien-gorge au placard. Le phénomène a décollé avec le confinement. Aujourd'hui, 18% des moins de 25 ans ne portent plus de soutien-gorge ou presque jamais. Elles n'étaient que 4% avant. Reportage RTL d'Hortense Crépin.
C'est là. J'arrive pas mal quand même. Toutes les couleurs, plusieurs marques.
Depuis des semaines, les soutiens-gorge de Mina n'ont pas quitté le fond de son placard.
La première semaine du confinement, j'avais continué à en mettre par pure habitude. Et je me suis rendu compte finalement que bon, ça ne servait à rien. Et donc j'ai arrêté d'en mettre. À moins d'avoir des t-shirts transparents ou moulants, j'en remets plus.
Pour la jeune femme de 22 ans, le no-bra, une question de confort.
On est quand même beaucoup plus à l'aise, on se sent mieux. Du coup, cette sensation de l'enlever le soir quand on en porte généralement toute la journée, et ben, on l'a toute la journée et c'est beaucoup mieux comme ça.
Hormis un possible mal de dos selon la taille de la poitrine, ne pas porter de soutien-gorge n'a aucun risque direct pour la santé.
Le port du soutien-gorge, c'est une question qu'on ne pose pas dans les facteurs de risque de cancer du sein.
Michel Arich-Cohen, médecin au centre de sénologie du Champ de Mars à Paris.
Toutes les études qui ont été faites, et il n'y en a pas beaucoup, n'ont pas montré de risque prouvé avec ou sans soutien-gorge. C'est une valeur uniquement personnelle et de société.
Pour Mina, la décision de ne plus porter de soutien-gorge est définitive. Plusieurs de ses amis ont aussi fait le choix du no-bra.
Reportage RTL d'Hortense Crépin avec soutien-gorge, pour autant que je sache.
Vous avez des infos, vous, Isabelle Choquette.